Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir retenu ce nouveau numéro de Wagon Livre sur votre radio locale Radion, tous les mercredis à 21h. La bande dessinée est à l'honneur ce soir, en effet, nous rencontrons Chris Flamand, scénariste et dessinateur, auteur de l'album Vacances à Saint-Prix aux éditions Aquileos, transposition graphique de l'enfance du dessinateur et de ses vacances estivales passées dans un lieu dit perdu en plein Morvan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai demandé à Chris Flamand de nous glisser sa carte de visite.
Il faudrait déjà plusieurs émissions pour en parler, mais en fait, moi j'ai démarré dans la bande dessinée dans une autre vie, entre 73 et 80. J'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 17 ans et demi, 18 ans, dans un magazine qui s'appelait Pif Gadget, donc à l'époque du poissoteur du Mexique, à l'époque des Pifis, et j'ai travaillé, j'ai commencé en fait à travailler dans le dessin grâce à quelques rencontres avec des dessinateurs de bande dessinée, parce qu'à l'époque j'allais beaucoup dans les salons, et j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Jean-Claude Poirier, qui faisait Horace Cheval de l'Ouest, qui faisait Super Matou dans Pif, et qui est devenu plus qu'un ami, qui est devenu un frère. Et ce Jean-Claude a jugé utile un jour de m'inviter à la rédaction de Pif, en disant, bah voilà, regardez ce qu'il a dans ses cartons, ça peut être intéressant. Très honnêtement, les dessins étaient loin d'être au point, mais au bout de 3 mois d'aller-retour dans la rédaction, ils ont enfin réussi à me prendre, et je suis resté 7 ans chez Pif Gadget avec 2 autres débutants qui s'appelaient Edika et Carali. Et on a fait une grande partie des jeux dans les petits formats poche, Placide Museau poche, Pifou poche, etc. Ça, c'est le tout début de ma carrière.
Et alors après, votre carrière prend une autre tournure?
Oui, parce qu'en fait, en 80, il y a eu quelques soucis entre les dessinateurs et la rédaction de Pif. C'est une histoire un peu oubliée maintenant, mais Pif était quand même une boîte de gauche, et ils avaient quand même la malencontreuse idée d'oublier de payer leurs charges sociales patronales.
Ce qui est fâcheux.
Et ce qui a créé un espèce de contentieux entre la sécurité sociale et eux, et on a été, invités à témoigner contre Pif pour ne serait-ce que récupérer les points de retraite plus tard, ce qui commence éventuellement plus à me concerner maintenant. Et donc, bien entendu, après, je crois qu'il y a eu 70 procès, et les rapports se sont un peu distendu, donc on est parti pas forcément bons amis, et en 80 j'ai décidé d'abandonner au moins temporairement la bande dessinée pour me consacrer à ce qui m'a nourri pendant 30 ans, c'est-à-dire le graphisme et la publicité.
Et ce qui vous nourrit toujours?
Toujours, exactement. Voilà, j'ai un studio de publicité à Poigny qui fonctionne toujours, malgré ce que d'aucuns peuvent penser, parce que maintenant qu'on me voit beaucoup dans la bande dessinée, il y a pas mal de clients qui me disent « mais tu travailles toujours dans la pub ?» La réponse est oui. Mais j'ai une seconde activité qui est scénariste et effectivement dessinateur.
Vous travaillez essentiellement pour vous en tant que scénariste, ou est-ce que vous vendez un peu vos talents ceux qui en auraient besoin?
Ce sera un petit peu tôt pour en parler, parce que j'ai un projet de scénario pour un autre dessinateur, mais là, pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Il s'avère qu'il y a 4 ans, mon fils Julien, qui avait 25 ans, qui finissait ses études d'art graphique à Lyon, dans une très belle école qui s'appelle Émile Cole, devait donner une 20aine de pages de bande dessinée pour la fin de ses études. Et la plupart de ses petits camarades ont décidé de reprendre un grand classique, Hugo, etc. Et lui m'a dit, depuis le temps que tu me dis que tu vas revenir à la bande dessinée, que tu as des scénarios plein tes cartons, que plutôt que de devenir un bobo qui dit qu'il va écrire et qu'il ne le fera jamais, je te mets au pied du mur, écris un scénario pour moi et on fait un album ensemble. Alors donc j'ai un peu hésité, pas trop longtemps, et j'ai commencé à écrire quelques pages de Vacances à Saint-Prix, scénario qui n'était pas dans mes cartons, mais qui était dans ma tête depuis une dizaine d'années quand même, que j'avais quand même pas mal à travailler. Et il s'avère que c'est avec ses 20 pages qu'il a réalisé un peu tout seul, il a réussi à avoir son diplôme. De fil en aiguille, il y a une succession de coups de chance, c'est-à-dire que ses pages se sont retrouvées hébergées par le site d'Argo. Il y a eu un petit buzz autour de ça, des lecteurs, des internautes ont commencé à envoyer des messages en disant « et la suite, quand ?» Alors on s'est laissé un peu surprendre par cette réaction-là. Et je dois rendre hommage à un des libraires de Lyon qui s'appelle la librairie Expérience, qui ont eu l'excellente idée de réunir nos 20 premières pages parmi plein d'autres pages de jeunes auteurs, ce qui m'a fait plaisir, dans un album qui s'appelait Le Projet Bermuda. Il a mis 2 ans à sortir, ce gros volume, mais ils ont eu la bonne idée de l'envoyer à pas mal d'éditeurs francophones, en disant, voilà, des gens qui sont éventuellement la jeune garde de la bande dessinée. J'étais un des plus âgés de l'équipe, du coup. Et une semaine après, on a reçu un mail des éditions Aquileos qui nous ont dit, contre toute attente, vous ne faites pas du tout partie de notre ligne éditoriale. On édite plutôt des traductions de livres américains, de l'heroic fantasy, mais on a tellement craqué sur votre projet que venez nous voir, si vous le souhaitez, on vous signe et on vous édite dans toute la France. Voilà, et donc on s'est déplacé avec Julien, on s'est laissé surprendre jusqu'au bout, et quand on a quitté le bureau d'Aquileos, on était devenus amis, on avait un contrat en poche, et l'histoire a commencé là. Et on avait 6 mois pour sortir, pour finir l'album, pour qu'il puisse sortir pour Angoulême 2008.
Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa.
Alors venons-en justement à Vacances à Saint-Prix. Vacances à Saint-Prix, donc une bande dessinée qui est la transposition en dessin de votre propre enfance.
Exactement.
Donc ça y est, vous êtes libéré de votre enfance.
J'en étais pas trop prisonnier, parce qu'en fait, j'ai ce que je raconte, effectivement, ce sont des aléas de la vie de petit garçon dans un monde cruel et dans un monde inhabituel pour moi. Moi qui suis né à Paris, mes parents sont arrivés très tôt à Auxerre, et d'un seul coup, ça m'a paru le bout du monde. Et mes parents ont jugé utile de m'envoyer en vacances pendant 7 années dans un tout petit village du Morvan, à côté de pas très loin d'Autun, on va dire, pour situer, pour faire rapidement, et je me suis retrouvé à passer de nombreuses vacances, chaque fois un mois, d'abord seul et ensuite accompagné de mon petit frère Patou, dans un lieu dit qui avait 3 habitants, dont moi. Donc effectivement, je me suis retrouvé dans un univers complètement inattendu pour le petit citadin que j'étais.
Alors la couverture de la bande dessinée représente 2 enfants de dos, tenant des bouilles de lait sur un chemin forestier.
Qui existe encore d'ailleurs, oui.
Et justement, cette couverture, c'est, C'est un adieu à l'enfance, la page est tournée, c'est, ça y est, je vais sur le chemin de la vie d'adulte.
Alors, il est fort probable qu'il y ait un peu de ça. Je ne l'ai pas du tout envisagé comme ça quand j'ai écrit le scénario.
Pour moi, c'est la couleur aussi.
Alors, la couleur est
rouge avec cet éclair de lumière qui sorte de projecteur sur ces deux enfants.
Alors, Yannick, il y a une chose très importante à savoir, c'est que quand on a fait cette couverture, au départ, elle était très classique, c'est-à-dire que le ciel était bleu, l'herbe était verte, les personnages étaient en couleur, rose, etc. Donc, tout à fait classique. Et un jour, Julien a eu la bonne idée de mettre un filtre Photoshop sur cette couverture, et d'un seul coup, la couverture est devenue intégralement rouge, avec des nuances assez intéressantes. Et on s'est aperçu très vite que c'était très cohérent avec le ton de l'album, qui au départ est un petit peu chez Pagnol, mais qui en cours de route est beaucoup plus proche de Vipère au Poing. On est plus dans quelque chose de tragicomique en fait. Tout n'est pas rose dans Vacances à Saint-Prix, loin de là.
Non, parce qu'il y a des cruautés.
Il y a des cruautés.
Envers les animaux.
Voilà, envers les animaux, envers nous-mêmes.
Envers les enfants.
Envers les enfants aussi. Là, je pense qu'il y a des personnes, notamment Marcel et Dedette, qui sont les deux personnages principaux, qui sont, on va dire, les méchants de l'histoire, qui sont d'ailleurs qui ont existé, qui sont d'ailleurs encore en vie, qui ont plus de 85 ans tous les deux.
Donc votre oncle, votre tante et votre oncle.
Mais voilà, c'était en fait la cousine de ma mère et son mari, en fait, voilà. Donc, mais on les considérait comme des tontons et des tatas, quoi, en fait, globalement. Et au tout début, on a été accueillis par des personnes très gentilles, très amicales, à l'ancienne, des pépés, des mémés, qui... Alors là, on avait les chèvres, on avait le fromage de chèvre, on avait les promenades dans la forêt, on avait des choses très bucoliques. Et à la mort de ces gens-là, on a été pris en charge par leurs enfants qui ont eu des... Comment on pourrait dire, qui ont eu des velléités de nous dresser un petit peu plus et de nous apprendre la vie telle qu'elle était à l'époque dans ces campagnes. Et donc, on est devenus un peu leurs esclaves d'un seul coup. Alors,
l'épisode où il faut creuser des trous, les 25 trous pour planter les piquets de la clôture.
Voilà, donc on a découvert qu'on pouvait...
Il fallait être un feignant, mais robuste. En fait,
robuste, voilà, c'est ça. Donc, on a découvert en plus tout un tas de... non seulement un univers particulier, mais en plus un parler. Le patois du Morvan est quand même très particulier. Et on a, c'est comme un petit peu comme si on allait sur une autre planète ou en tout cas dans un autre pays. Et on était de fait dans un autre pays parce que le Morvan à l'époque, même s'il n'a pas beaucoup changé maintenant, c'était très surprenant pour nous. Hein.
Alors, revenons un peu à Pépé, le Pépé Marius,
Marius
et Mémé Marie-Louise. Alors
oui.
Le Pépé Marius est un Pépé pépiniériste.
Oui, exactement.
Alors c'est pour la littération que vous avez choisi. Il était vraiment pépiniériste.
Il était employé communal en fait. On a mis pépiniériste pour faire court, mais il était employé communal. Il partait le matin. Il faisait 1m50. C'est un tout petit bonhomme, 1m55. Il partait avec sa musette, sa réserve de lard pour la journée parce qu'il ne se nourrissait que de lard et de vin rouge comme beaucoup de gens dans le Morvan. Il se roule des clopes improbables et en fait c'est quelqu'un que vraiment j'adorais parce qu'il menaçait, il nous faisait peur, il nous menaçait si on était pas sage de nous pendre au clou des jambons, on le croyait bien entendu et il était comme on disait à l'époque un taiseux, c'est-à-dire qu'il observait les choses, il ne disait pas grand-chose mais on voyait dans son œil qu'il nous aimait vraiment beaucoup et donc on a fini quand même au bout de quelques semaines ou réparti sur quelques années, à s'habituer à cette ambiance-là et à se dire qu'on était dans quelque chose qui nous convenait. Donc on adorait aller à Saint-Prix.
Un manque de confort.
Il y avait un manque de confort total.
Alors, ça se passe en 1965. La BD s'ouvre
voilà,
en 65, on voit la rue de Paris,
voilà.
D'Auxerre.
En réalité, c'est entre 60 et 67, 68 dans la vraie vie. Mais là, dans l'album, on a condensé ça quand on a écrit le scénario en un été pour que ce soit un petit peu plus dense. Toutes les anecdotes qui ont réellement existé se retrouvent sur un mois. Mais ça s'est délayé en réalité sur cette année, sur cette fois. Un mois.
Of Dover, many rivers to cross. such a dread to be on your own. My woman left and she didn't say why. Well, I guess I have to cry. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time.
Vous qui êtes un vendeur capitaliste de bandes dessinées à foison, vous avez connu un mode de vie spartiate pendant vos
très
vacances.
Très maintenant je suis absolument blindé, mais à l'époque j'étais très pauvre, effectivement. Oui.
Alors, justement, cet endroit, ce qui est très amusant...
Il y en a qui vont le croire, c'est un peu...
Ce qui est très amusant dans Vacances à Saint-Prix, votre bande dessinée, c'est aussi toute la dérision, forcément, et le décalage entre le regard de l'enfant et du dessinateur.
Ça me fait plaisir que vous ayez si bien lu l'album, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais me souvenir du petit garçon de 10 ans que j'étais, et j'ai voulu préserver le regard que j'avais sur le monde des adultes, ce qu'on a tendance, en vieillissant, et surtout passé la cinquantaine, à oublier de manière cruelle. Et donc j'ai voulu un peu me faire un aide-mémoire pour conserver à l'intérieur de moi le petit garçon que j'étais, peut-être. Ouais.
Alors cet endroit que vous présentez, bien sûr, par raillerie comme enchanteur, donc pas de toilette, les animaux effrayants, la toilette matinale avec mémé Marie-Louise qui vous frotte dans le ruisseau.
Le
et puis vous vous rendez compte que la presse, le journal, peut avoir une fonction surprenante.
Tout à fait, une fonction
papier,
totalement hygiénique, voilà, bien entendu.
Totalement hygiénique.
Il n'y avait pas de rouleau. Je me demande même si à l'époque les rouleaux étaient inventés, j'en suis même demandé ça, mais en tout cas, c'était des feuilles, je me souviens. Mais à l'époque, ça coûtait bien trop cher, donc on prenait le progrès de Saône-et-Loire, et on le découpait en petits carrés pour en avoir une utilisation absolument utile. Et ce qui m'a fait drôle, c'est que un des premiers à faire un article sur l'album, c'est justement le Progrès qui nous a appelé quelques mois après en disant « Nous avons bien lu et vu l'utilisation que vous faisiez à l'époque de notre journal. »
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Alors, moi qui suis pas bourguignon d'origine, puisque je suis franc-comtois, né dans le département du Doubs, j'ai beaucoup aimé ce que mémé Marie-Louise dit à son petit-fils pour lui souhaiter bonne nuit, et qui sont des consignes de maintenant on dort quoi.
Voilà, c'était il y avait d'abord elle nous disait bouni, elle ne disait pas bonne nuit, elle disait bouni, ce qui m'arrive encore de dire de temps en temps, et elle nous disait coucou chepanier, papa t'en rond, qui est resté effectivement une expression un peu dans la famille quoi.
Alors puisqu'on est sur les expressions, il y en a une qui m'a énormément fait rire. C'est celle de
Marcel.
Voilà, c'est ça. Ouais. Je vous laisse la dire, Chris Clément.
Marcel, souvent, il nous le disait très souvent, ce qui finissait par être une expression pour nous assez, assez commune, mais il disait « j'ai le cul qui me gratte, c'est signe de bonne soupe ». Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, il le disait souvent.
Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, durant ses vacances dans le Morvan, vous l'écrivez, vous appropriez le paysage, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut trouver un toboggan, on peut chevaucher des genêts.
Mais je me souviens ce qui est formidable. Moi, ce que j'ai voulu, alors,
c'est un peu les enfants. Pardonnez-moi, Chris, c'est un peu les enfants naufragés dans le Morvan.
Voilà.
Et qui, tout d'un coup, la nature devient jeu.
On s'approprie ce qu'on nous laisse, c'est-à-dire rien, hein, c'est-à-dire une boîte de vaches qui rient
pour jouer autour de France.
Ça, oui. Et je me souviens très bien un truc que je n'ai pas raconté vraiment dans l'album et qui m'a laissé un souvenir quasiment physique, c'était qu'on a 10 ans, 12 ans, et on va faire des kilomètres entiers pour aller chercher les commissions en courant. On avait un bâton de marche, on commençait à se servir de ce bâton comme d'une moto, et on finissait par courir aussi vite que des motos, et on avait la sensation d'être des motocyclettes. Et ça, c'est un truc qui est complètement inexplicable. C'est l'imaginaire et l'imagination des petits enfants. J'en ai un vrai souvenir de ça, en fait. C'est très difficile à transposer en BD. Mais j'ai l'occasion d'en parler. C'est assez marrant.
Est-ce que finalement, dans les salons, vous avez rencontré des lecteurs de votre génération?
Oui.
Auprès de qui vous auriez fait ressurgir un petit peu des souvenirs d'enfance identiques aux vôtres?
Ah ben, ça a été tout le temps ça. En dédicace, on a dû faire depuis janvier 2008, on a dû faire 40 ou 45 salons, festivals, etc. Donc, ou librairies. Et où que ce soit en France, parce qu'on est allé vraiment, on a été partout en France, et quelles que soient, je dirais, les générations, on nous a dit un peu la même chose, surtout pour Saint-Prix, on nous a dit « ça me rappelle mon enfance », mais c'était pas la même époque, c'était pas les mêmes lieux. Mais on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose de, on va dire, de transgénérationnel déjà, et qui a passé complètement la barrière de la Bourgogne ou de cette région de France. Et on s'aperçoit qu'il y a un socle commun, à l'époque, qui doit exister maintenant, qui doit se reproduire, j'imagine, maintenant, mais qui a été très fort à l'époque parmi les gens de ma génération. Mais j'ai eu, par exemple, à Angoulême, une copine dessinatrice qui a été une des premières lectrices, qui n'avait que 25 ans et qui m'a dit « c'est drôle, ça me rappelle mon enfance en Suisse ». Donc c'était pas du tout la même époque et c'était super loin par rapport à ça. Donc il y a sans doute quelque chose dans le temps qui perdure. C'est peut-être l'enfance qui perdure, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Peut-être plus. patience, un rêve trouvera le seul.
Le mari de Dédette, ceci dit, vous a donné une bonne condition physique,
oui.
Avec les marches à travers le Morvan. Et alors, il a une expression extraordinaire, là aussi, parce qu'on rit énormément. C'est « garde ton souffle pour faire caca
». Honnêtement, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit « est-ce qu'on dit ça ?» Parce que franchement, ça va faire... Et puis, on s'aperçoit que c'est... Des choses vraiment très intimes comme ça que personne n'avait entendu et qui ont marqué les lecteurs. Comme quand mon frère, par exemple, à un moment donné devient fou. On ne sait pas pourquoi.
Ah oui, est-ce
les champignons? Il s'est mis à créer,
bocal.
Ça n'a aucun sens dans la réalité. Mais mon frangin s'en rappelle très bien. Et c'était resté pareil dans la famille, comme un coup de folie de mon frangin. Et encore maintenant, on peut encore lui dire bocal. C'est resté dans le langage familial, en fait. Mais on s'est dit, on va le laisser. Et ça fait partie des petites aspérités de l'album qui ont marqué, en fait. Et je suis bien content qu'on ait décidé de les garder, de les conserver.
Il n'y a pas vraiment de personnages épouvantables. Ils ont tous un aspect sympathique. Bah, ils sont rudes,
oui.
Dédette à la claque facile.
Ouais.
Elle montre
à un moment donné ses attributs. C'est la première fois de ma vie que je vois des seins. Et quels seins, c'était extraordinaire. Elle s'était en train de se laver. Elle n'avait pas de salle de bain, bien entendu. Donc elle se lavait comme nous tous dans la cuisine. Fenêtre grande ouverte. Elle avait savonné abondamment ses immenses seins. Et,
seins pastécoïdes, pourrait-on dire.
Pastécoïdes, on pourrait dire ça. Et d'un seul coup, elle s'est arrêtée, un sein dans chaque main, et elle nous regarde fixement. Et nous, on était tête contre tête avec mon petit frère en train de regarder cette vision totalement dantesque. Et elle s'arrête, et là, il se passe quand même quelque chose qui nous a paru comme de longues minutes, c'était quelques secondes, et elle me dit cette phrase définitive, « Et alors, vous n'avez jamais vu votre mère ?» Et bien entendu que non, on n'avait jamais vu notre mère toute nue. C'était absolument improbable dans ma famille, et puis dans pas mal de familles de mes petits copains d'époque. C'était juste impossible. Et on en a gardé un souvenir incroyable, parce que c'est, comme premier contact avec la féminité, c'était assez espèce quand même.
Vous m'envoyez, oui, je ne sais plus comment enchaîner après.
Donc, mais j'en ai gardé un bon souvenir quand même.
Alors, à côté de cela, il y a tout de même le mode de vie très, très abrupt, très ouais. rude de ces gens de la terre. Ils sont un peu à l'image du paysage morvandio. Ils sont rudes. C'est un pays pauvre où on vit.
On vit avec rien. On vit en autarcie déjà.
Alors bon, c'est vrai que le petit lapin qu'on tue, le pyjama.
Voilà.
Et les chatons aussi qui sont. Alors c'est marrant parce que c'est très émouvant de voir ces deux petits chatons dans la main. J'oublie toujours le prénom de
Marcel.
Merci.
De Marcel.
Chris, ouais. Vraiment. on voit Marcel avec ses petits chatons qui sont un peu ridicules.
Voilà,
et finalement, il les jette, il les claque, il les assomme sur le sol et les enterre et tasse la terre avec ses grosses bottes d'homme de la.
Et tout vivant. Voilà. Il y avait une autre version qui était bien hard aussi. Et je m'en suis souvenu après. C'était en discutant avec mon frère.
N'effrayez pas nos auditeurs.
Non, du tout. Mais il les mettait carrément dans le feu. Il les mettait carrément dans la tout vivant dans la cuisinière. Et on les entendait crépiter à l'intérieur. Donc ça, c'était aussi assez terrible quand même. Le bruit des petits chats qui crépitent, c'était quand même assez inoubliable. Mais on avait très vite intégré ça, parce que les enfants sont également assez cruels. Donc on a dit, voilà, c'est leur mode de vie. Ça paraît normal à tout le monde. Donc nous, on accepte. Hein, ce que disent les adultes, c'est parole d'évangile. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a commencé à subir des cruautés, des fois un peu sévères de la part de Dedette surtout, qui se poivraient la gueule à longueur de journée, surtout vers la fin, et qui finissait par me sauter dessus en me traitant de con et de crétin.
Oui, mais aussi, fallait peut-être pas remplir la bouteille au-dessus de l'étiquette.
Au-dessus de l'étiquette,
c'est votre faute, Chris, que voulez-vous.
Et ça, c'est vraiment tout à fait vrai.
Mais vous avez
Il y avait des codes à respecter avec elle. Si on n'avait pas les codes, on se prenait une tournée, quoi.
Est-ce que vous avez vraiment téléphoner clandestinement, discrètement à vos parents pour leur demander de venir vous chercher?
La cabine téléphonique existe encore à Saint-Prix. Je l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça, l'été dernier. On a appelé en disant c'est horrible. C'est la première fois qu'on faisait part à nos parents de notre peur. Et là, mes parents, qui sont plutôt attentifs, mais qui étaient très occupés par leur métier d'opticien à Auxerre, rue de Paris, se sont quand même déplacés en disant il se passe quelque chose, on va chercher les gamins. Et effectivement, quand ils ont reçu la lettre des parents en disant « on vient chercher les enfants plus tôt », on a été obligé de simuler la déception pour ne pas...
C'est bien rendu dans la bande dessinée,
voilà, on le comprend bien. Voilà, c'était ça. On était obligé réellement de... On était fous de joie. On a tourné la maison en disant « yes, yes ».
Mais Dedette et Marcel ne sont tout de même pas des Thénardier modernes, ou des Thénardier des années 60.
Dedette était quand même une Thénardier, si, quand même un peu. Marcel était celui qui voit tout, qui ne dit rien, par faiblesse. D'ailleurs, Marcel est toujours en vie, Dedette aussi. Dedette est à Autun, dans un triste état. Comme on disait à l'époque, elle part de la tête. Donc, elle ne peut pas tellement lire l'album. Elle qui a été quand même horrible toute sa vie est devenue gentille. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai de la tendresse. Marcel, par contre, on le voit à la fin de l'album en photo, dans les petites pages photographiques de
avec
fin.
Avec les béquilles.
Avec les... Non. Je crois pas. On est à table et je suis en train de lui expliquer le scénario et je lui dis, j'essaie de lui faire passer le message suivant, toi qui es un grand lecteur qui m'a appris à lire Astérix chez toi à l'époque, parce que c'est l'époque, tu vas devenir à ton tour un personnage secondaire mais un personnage de bande dessinée et tu n'as pas le beau rôle. Et quand on s'est revu après, qu'il a eu l'album entre les mains, qu'il l'a lu, parce qu'il sait très tout à fait bien lire, même à 86 ans, il a pris soin de me parler de tous les détails mais pas de l'essentiel. Et donc, on est resté un peu sur une fesse avec cette histoire-là. J'aimerais bien lui en reparler franchement.
Néanmoins, Marcel est capable de répondre à toutes les questions du jeu des 1000 francs.
Ah, ça, c'est
apparemment extraordinaire. C'était un homme cultivé.
Une très grande culture livresque. C'était hallucinant. Je crois que je l'ai jamais entendu une seule fois caler sur une quelconque question du jeu des 1000 francs. Ça me fascinait parce que je me disais, voilà, Pic de la Mirandole, quelqu'un qui a absolument tout lu, tout retenu. C'était magnifique. Du coup, j'ai écouté jusqu'à la fin du jeu des 1000 francs par Lucien Genest. J'étais un fidèle de cette émission en hommage à Marcel, en fait.
Écoutez, bonne gens, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école,
à la place de crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. Puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Les années passèrent.
Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage et ficeler le docteur qui faisait les vaccins et puis contaminer les gens du voisinage. amusante à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne.
Ils devinrent des hommes.
Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Et la justice payée.
Les jours leur tête augmentait de 20 centimes.
Des centimes américains.
Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne.
Avec les vacances à Saint-Prix, donc, vous faites ressurgir toute une époque à travers les émissions et aussi les chansons.
Oui, aussi, ouais, tout à fait, oui, c'est bien d'avoir vu ça, parce que là, comme on est entre 65 et 66, on avait essayé de démailler le texte et les images de petites citations de chansons pour qu'on ait un peu la bande-son de l'époque. Avec des chansons qui m'ont moi marqué à l'époque, c'était beaucoup Gainsbourg, beaucoup Polnareff, les débuts, etc. Quoi. Ce que j'ai aimé et ce que j'aime toujours d'ailleurs.
Alors avant de mettre un terme à notre entretien, Chris Flamand, j'aimerais vous demander pour quelles raisons vous vous représentez très généralement dans la bande dessinée avec les yeux très grands ouverts, très ronds.
Ouais.
C'est quoi? C'est votre propre regard exorbité?
Alors ça va être plutôt le regard de... Comme c'est plutôt mon fils qui a travaillé la typologie des personnages, les personnages secondaires que j'ai connus, je lui ai fait pas mal de croquis pour qu'il puisse les reprendre. Mais les deux personnages principaux, Kiki et Patou, c'est plutôt Julien qui les a créés en fait. Donc il faut croire que lui me voit comme ça. Puis peut-être que j'ai les yeux un peu ronds aussi, c'est possible. C'est possible, mais en fait, il fallait faire un distinguo entre mon frère et moi. Donc là, on a fait appel un petit peu à des artifices de dessin pour qu'on puisse reconnaître la typologie des personnages.
Alors, on va bien sûr encourager les auditeurs à se procurer Vacances à Saint-Prix, parce que là, ils nous ont entendus évoquer finalement votre enfance.
Oui.
Et le mieux, c'est d'acheter la bande dessinée pour en rire et aussi être ému. Et puis, on se replonge avec plaisir, finalement, dans une bande dessinée à mi-chemin, avec aussi La Guerre des Boutons, Pergaud, l'enfance. Enfin, c'est tout un univers de cette enfance.
J'accepte avec
drôle,
joie.
Triste, pleine de malice, de ruse, cette confrontation entre les adultes et les enfants, où on essaie de se révolter, où on ne le peut pas, on se prend des claques, des cahiers de vacances. Enfin, c'est l'enfance. Et donc, c'est Vacances à Saint-Prix.
Aux éditions Aquileos.
Aquileos. Voilà. Et il y a donc un deuxième album
qui s'appelle Quand je serai grand.
Quand je serai grand. Toujours
qui est sorti là il y a deux mois, il y a deux, trois mois pour le dernier Angoulême et qui se trouve toujours en librairie. On peut le commander de toute façon, ce sont des albums qui ont deux ans et trois mois, donc on peut encore les commander même si on ne fait plus déjà partie des nouveautés chez les libraires, bien entendu.
Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. En mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans des chansons, poupée de cire, poupée de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Quels sont les projets à venir? Alors, vous travaillez déjà sur d'autres albums?
Alors oui, j'écris des pages de deux albums différents, en fait. Et là, je me laisse un petit peu de temps jusqu'à cet été pour savoir précisément si c'est un troisième album et qu'on puisse boucler en quelque sorte la trilogie. Ça me faisait plaisir d'avoir ma trilogie personnelle, comme tout le monde. Mais au départ, j'étais parti sur l'époque Pif Gadget, et puis je m'aperçois que ça ferait un bond dans le temps assez radical, et que je serais du coup un adolescent boutonneux, ce qui est peut-être moins intéressant. Donc j'ai plus ou moins décidé, en tout cas à ce jour, de prendre un an de plus dans le prochain album, donc d'avoir 13 ans. Et miracle, nous sommes en 1968. Donc en 68, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et je crois que la thématique générale de l'album, indépendamment de l'année et de mon âge, ce sera le premier regard sur les filles. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'éveil à la sexualité, à l'intérêt, aux filles, à ce qui nous entoure.
Voilà. La découverte de son corps.
La découverte de son corps et tout ça, voilà. Alors donc c'est pareil, je vais essayer d'être continuer à être lu par des enfants de 12 ans, mais je m'adresse quand même principalement à des adultes dans cette série d'albums.